pas comme les autres. Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Luc Tassé est avec nous. Il est politologue et il s'intéresse un petit peu à la politique. Monsieur Tassé, bonjour.
Oui, bonjour. C'est ce défaut. Ça m'arrive parfois.
Bon, alors fais un effort et explique-nous en quoi consistent ces 17 décrets signés hier par Joe Biden.
17, mais c'est 17 décrets qu'il a signés hier après-midi à son bureau, surtout en environnement, en santé, etc. Le premier décret rend obligatoire le port de masques dans les immeubles fédéraux et les transports fédéraux. Ensuite, Biden a signé un autre décret sur l'annulation des forages pétroliers dans les zones protégées, donc les parcs, etc., entre autres en Alaska. Fin de l'interdiction aussi d'entrée des citoyens qui viennent de certains pays musulmans. Il a dit qu'il le ferait, il l'a fait immédiatement. Suspension de la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, ça aussi, il a fait ça. Il a aussi parlé de la régularisation, signé un décret sur la régularisation des enfants immigrants, et donc il l'a fait très très rapidement. Et puis, il va retourner aussi dans l'Organisation mondiale de la santé, tu vois. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la stratégie nationale contre la pandémie de COVID-19 qui a été publiée ce matin et il lance ça aujourd'hui. C'est un texte de 21 pages. Il y a des mesures très très concrètes là-dedans qui sont sous ces 7 grands thèmes différents et c'est vraiment très bien fait. C'est systématique, ça couvre tout. C'est pas, c'est vraiment. Encore une fois, tu regardes ça, puis tu dis, mais comment ça se fait que Trump n'a pas fait ça?
Oui, c'est ça. Hein?
Non, mais c'est bête, là, mais hein? Tu dis, ben, c'est... je te donne quelques mesures.
Oui.
Invoquer sur la loi sur la mesure sur la défense nationale, donc pour accroître la production de vaccins. Donc, la production de il va réquisitionner des usines, il va réquisitionner pour des toutes sortes donc d'usines qui fabriquent des équipements médicaux, des vaccins, etc., pour justement que les Américains aient accès à ce matériel médical. On avait dit à Trump de le faire depuis des mois. Non, il faisait pas, il n'y a pas vraiment de pandémie. Biden, première mesure, c'est ça. Mmh. Une campagne nationale de vaccination. On a appris ce matin que Trump n'avait rien laissé. Il n'y avait pas de véritable campagne de vaccination. Il laissait croire qu'il y avait quelque chose, aucun plan de vaccination. Alors probablement que l'armée va être impliquée dans la vaccination. Il va faire des campagnes de publicité aussi, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui portent pas de masque et qui devraient en porter. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il lance dans son train de mesure. Quoi d'autre encore? Il va travailler de concert avec les autorités locales pour rendre obligatoire le port du masque, parce qu'il sait bien que c'est de juridictions parfois étatiques des différents États, ou alors de Gilles. Alors il va travailler avec eux. Il veut aussi plus de transparence et un rôle de premier plan pour l'information scientifique, donc que le public américain soit tenu véritablement très au fait de tous les développements de la pandémie et de la lutte contre la pandémie.
Scientifique, c'est...
des mesures concrètes, là.
Scientifique,
les écoles, les lieux de travail.
Mais Loïc, c'est quoi ça, scientifique? Depuis quand on a des informations scientifiques de la Maison-Blanche?
Eh oui, ben oui, hein, parce que les informations scientifiques avaient tendance à contredire ce que Trump pressentait, ce qu'il croyait.
Ben oui, que la COVID va partir à l'été, voyons donc, le virus, ben, ça s'en va pendant qu'il fait chaud.
C'est ça, exactement. C'est ce qu'elle a dit aussi. Oui, avec
ben oui, je le sais.
Vous verrez, ça va partir.
Ben oui,
Vous en faites pas.
La science connaît rien, c'est moi.
Lui, on a vu qu'il y avait une belle équipe de médecins. C'est quoi, 21 médecins qui travaillent, quand il l'a attrapé?
Ouais, hein.
Tout le monde a ça, hein.
OK, ouais. Alors.
Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi dans les mesures, puis je termine avec ça, si tu permets, Benoît, c'est qu'il veut que les États-Unis redeviennent le leader mondial pour la recherche biomédicale, et il veut aussi que les États-Unis se prépare à la prochaine pandémie et qu'il soit autonome. Donc, il prévoit la construction d'infrastructures dans le domaine médical, encore une fois, pour que les États-Unis soient autonomes et résilients. Et ça, là, ça va pas juste être dans le domaine médical, ça va être partout ailleurs. Et je dis, c'est au Canada aussi, on devrait regarder ça de très près, tous les pays, toutes les grandes régions du monde travaillent dans ce sens-là pour rendre leur économie plus autonome et plus résiliente. Et nous aussi, il va falloir qu'on rentre là-dedans. Je sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'on se rende compte que tout le monde fait ça, mais le plus tôt on s'en rendra compte, le mieux ça vaudra.
Penses-tu, Loïc, que sous Joe Biden, les États-Unis vont devenir flanc mou devant la Chine?
Je pense pas. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises. Tu sais, les gens qui sont son secrétaire d'État, la personne qui est responsable aussi des services de renseignement, ont tous tenu des propos extrêmement durs contre la Chine. Et moi, je pense que, au contraire, la Chine les politiques de Trump vont se poursuivre sous une autre forme. Et ça risque d'être bien plus intelligent comme lutte que ce que Trump a fait, parce que Biden, lui, veut absolument avoir la coopération de ses alliés pour lutter contre la Chine. Donc, au contraire, non, je pense que les nuages s'accumulent sur les relations entre la Chine et les États-Unis. Puis d'ailleurs, le gouvernement chinois a décrété des sanctions contre 28 personnes de l'administration Trump, dont Mike Pompeo. Concrètement, ces gens-là n'ont plus le droit d'entrer sur le territoire chinois et les compagnies auxquelles ils sont associés ont du mal vraiment à faire des affaires en Chine. Et pendant ce temps-là, l'administration Biden a dit non, ça c'est très cynique, c'est contre-productif ce que vous faites aux Chinois, donc il y a déjà une petite tension là. Et surtout, moi c'est ça qui m'a intéressé, on a vu que Twitter a suspendu les comptes d'employés de l'ambassade de Chine à Washington. Et ça c'est de la censure là, on s'entend. Moi je suis contre, je suis pas d'accord avec ce qu'ils viennent de faire là. Même si je suis pas d'accord avec ce que les employés ont écrit, parce que eux, ces employés-là, ont écrit que, il n'y avait pas de génocide au Xinjiang. Évidemment, Pompeo les accuse de ça. Et ils ont écrit, entre autres choses, « Oh, mais vous savez, les femmes au Xinjiang sont beaucoup plus libres qu'avant. Elles ne sont plus des machines à faire des enfants comme avant. » Puis là, tu dis ça, puis tu dis « Non, ils n'ont pas écrit ça. » Parce que figure-toi qu'elles sont stérilisées, les femmes au Xinjiang, contre leur volonté, littéralement. Et c'est une pratique qui est assez répandue d'ailleurs en Chine, parce qu'il y a beaucoup d'avortements aussi en Chine, et les femmes qui se font fréquemment avorter, contre leur volonté, se font aussi parfois stériliser, pour plus qu'elles soient avortées. Alors tu sais, quand tu lis ce genre de propos, tu dis non, là, c'est incroyable qu'ils écrivent ça sur Twitter. Bon, cela étant dit, qu'ils se fassent répondre, que des gens comme moi disent non, c'est parce que regardez là, les politiques que vous menez sont des politiques de stérilisation forcée.
Ouais, mais toi, mais t'as combien d'abonnés à ton compte Twitter, puis eux autres en ont combien?
J'en ai zéro parce que je suis pas sur Twitter.
Ah bon, ben, tu vois,
c'est facile. Ça, mais je parle à la radio, je te parle à toi, et ça rejoint beaucoup de monde, ça. Puis il faut que les gens le sachent, et ça, je suis d'accord pour qu'il y ait un débat public comme ça. Et il faut pas tomber dans la censure comme les Chinois le font. Eux censurent. Moi, je passerais pas en Chine en disant ça, c'est évident. Mais il faut pas qu'on censure. Le cas de Trump était spécial.
OK, 30 secondes sur la crise financière à l'ONU, Loïc, s'il te plaît.
30 secondes.
Oui.
Bon, ça va mal à l'ONU, ils sont en déficit, les gens payent plus parce qu'il y a un problème avec la pandémie aussi. Il y a des pays, 7, qui ont perdu leur droit de vote parce que ils ont trop d'arriérés. Et il y a un gros problème, le budget officiel est de 3 231 milliards de dollars, il y a un déficit d'environ 320 millions. Mais le problème, le vrai problème dont personne ne parle, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnaires de l'ONU qui viennent de pays très corrompus. Oh, c'est pas gentil de dire ça.
Ouais.
Ben oui, ils sont corrompus, puis l'argent sort, puis on ne sait pas où ça s'en va à l'ONU. Donc l'ONU a des gros problèmes financiers, ils vont être obligés de couper du monde, et c'est malheureux, mais on en est rendu là en ce moment.
Ouais, tu connais l'avocat André Serrois, qui a travaillé à l'ONU, et qui dit exactement la même chose. Là. Il y a de la corruption à l'ONU, et peut-être si on faisait le ménage, il y aurait moins de déficit, puis on serait plus productif.
Absolument. C'est un vaste marécage, l'ONU, et personne ne sait où commence et où finit le budget de l'ONU. Ça pose vraiment de très, très vastes problèmes.
Ça, c'est joli, ça, un marécage. Bravo, Loïc, celle-là. Ça, c'est le mot du jour. Je te félicite.
Marécage.
Merci, Loïc. On se reparle demain.
Salut.